Là, on est au 7 bis, qui est en fait un lieu où on fabrique du théâtre, des images, des rêves. Un véritable endroit de travail, mais toujours un peu en suspension. Où le temps s'est un peu arrêté.
Jacques Tati, drôle de bobine.
C'est rare de vous rencontrer seul dans ces lieux, Daphné. Et c'est une surprise pour moi de vous trouver à la porte du ranch après une pareille chevauchée.
Il paraît-il que vous êtes le plus fort de l'Arizona.
Moi, depuis le hardi, vous êtes le plus joli comme un cœur, Daphné.
Oh, Jim, j'ai peur qu'il en fait rigoler.
Daphné, je vous veux.
En vieillissant avec Tati, je suis d'une certaine façon de plus en plus sensible à sa mélancolie. Stéphane Goudet, alors que dans un premier temps, on est probablement davantage sensible à sa capacité comique.
Historien du cinéma.
Si on me demande comme ça un geste, une émotion, etc., c'est pas forcément un éclat de rire, en fait. Ce sera plus, je sais pas, le gamin qui monte les marches avec les deux boules de glace dans les mains dans les vacances de Monsieur Hulot et qui les fait pas tomber, en fait. Je trouve ça bouleversant maintenant.
Je suis moi-même peut-être un peu émerveillé souvent de choses qui peuvent peut-être passer inaperçues. Et comme j'ai une petite déformation professionnelle, regarder tout ce qui m'entoure, je vois des choses que je trouve fabuleuses chez le comportement, le côté naturel des chiens.
À l'école, il a quand même appris à regarder le monde autrement, de plus loin, parce qu'il était très souvent au coin. Et donc, en étant au coin, tout à coup, il voyait le réel se déployer de façon différente. Il voyait, par exemple, le prof en train de se gratter les pieds ou les chaussettes, alors que les autres qui étaient devant lui ne pouvaient pas le voir. Voilà. Donc il y a une espèce d'idée comme ça du grand angle ou du plan d'ensemble qui va le former et du coup aiguiser son regard parce qu'il faut être d'autant plus attentif à ce qui se passe dans tel ou tel détail.
On est un grand garçon. On est bien ça.
C'est vraiment un cancre qui à un moment prend une solution de facilité qui est d'aller travailler près de papa. Papa se disant il va prendre ma suite, c'est pas grave. Encadreur d'art comme l'étaient papa et grand-papa.
Et je fais de belles cocottes en papier.
Lui, à un moment, se dit, mais non, mais moi, j'ai pas envie de faire ça. Et en même temps, ça, dit-il, lui a formé le regard sur la composition.
Oh, Charles, tes invités.
Tati est d'abord mime, il est totalement autodidacte. Hein. Il a appris sur les terrains de sport à mimer progressivement ses camarades et ses adversaires, y compris sur les terrains de rugby, mais pas seulement, en faisant du foot, en faisant du rugby, mais aussi du tennis. Donc il y a vraiment ce travail de stylisation du geste comique, du geste sportif, qui tout à coup lui donne envie et pousse aussi ses camarades de jeu à lui dire « Mais pourquoi tu te produis pas sur scène, en fait ? T'es tellement drôle que tu devrais faire un numéro. » En réalité, son activité sur le terrain n'était pas complètement performante, mais il y avait ce ciment qu'il constituait, entre autres, par le rire. Et il raconte ce jour où, en très très mauvaise passe, ils sont très largement menés à la mi-temps et se disent « qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Et Tati soulève les bancs dans les vestiaires, découvre qu'il y a des t-shirts de football et se dit qu'il va convaincre toute son équipe de venir avec des tenues de football et un ballon rond. Et il va se mettre entre les poteaux de rugby pour faire le gardien de but. Et donc, il y a un gala du Racing Club de France qui se monte et on va le construire autour de cette performance physique de Tati qui devient mime comme ça pour faire rire ses potes et les spectateurs de ses potes, quoi.
Ready? Let's start. 15. Oh, splendid. 30. 40. Game.
Non, il n'y a pas moyen de jouer. Oh.
All set? Serve. 15.
Excellent.
30. That's the stuff. 40, love. Wonderful.
Mais enfin, c'est impossible. Le tennis, c'est pas ça.
Game.
Est-ce que c'était-il le rire à quelque chose d'organique et en quoi ce rire-là est lié finalement à la beauté?
Comme vous avez raison de lier ces mots-là, la beauté, l'organique, le rire. Le rire, il peut être absolument sauvage et nous échapper.
Masha Makeyev.
Le rire de chez Tati, il est toujours extrêmement élégant.
Auteur et metteuse en scène.
Il y a toujours un fond de mélancolie, en fait. C'est le rire d'un mélancolique. Donc, à peine commence-t-on à rire qu'on se dit « Oh là !» C'est pas si simple. J'ai posé le pied sur quelque chose qui n'est pas très stable. Et donc, il nous parle de notre rire aussi, là. C'est-à-dire, attention, oui, on peut rire, mais il y a autre chose derrière. C'est quelque chose de qui bouge, voilà, qui n'est pas, rien n'est jamais solide, rien n'est jamais acquis. Les personnages, il est sur la pointe des pieds. Et donc, il va disparaître dans la foule. On se perd. Méfiez-vous, on se perd. Dans le monde, on se perd tel qu'il est. Et son rire à lui, c'est ça, c'est-à-dire qu'on rit et on sourit à la fois, mais on a une inquiétude. C'est un rire un peu inquiet.
Oh, quel ravissant spectacle, n'est-ce pas, cher monsieur? Justement, Jeanne grise la mer. Ces rochers, ces petites voiles blanches, tout ça, c'est vraiment joli. Qu'est-ce qu'on aperçoit là-bas? C'est Saint-Nazaire? Vous voyez au loin, là-bas, de ce côté?
Saint-Nazaire est sur la gauche, ça c'est l'entrée de la Loire, là.
Pour moi, les vacances au bord de la mer sont toujours très agréables et reposantes.
Là, c'est l'Atlantique, vous avez au fond de vous. Devant vous, vous avez...
C'est l'île de Noirmoutier qu'on aperçoit un tout petit peu, là. Hein. Donc, c'est juste dans le sud de Sona. Voilà.
Le vent prend de la force, ça.
Malheureusement, il y a trop de vent. On n'est jamais bien coiffé, n'est-ce pas?
Ce qu'on appelle l'effet Venturi.
Hier soir, vous avez vu de l'eau.
Cette nuit, énormément. Oui. Ah oui, ça a soufflé dur. Hein.
Pierre Joubert.
À cette époque-là, Saint-Marc, c'était un endroit qui était déjà très prisé par les gens qui venaient en vacances, mais on ne venait pas forcément en vacances à l'hôtel de la plage. À cette époque-là, c'était les pensions de famille ou les locations. Enfin, c'est juste le début quand même. Hein, ça s'est développé énormément. Petit à petit, les pensions de famille ont disparu. Et la population de Saint-Marc, c'était des paysans, des artisans, des ouvriers qui travaillaient au chantier de Saint-Nazaire, chantier de Pinouette, et qui travaillaient aussi sur les avions de la SNCAZO. Et donc, il y avait aussi beaucoup de gens qui étaient relogés à Saint-Marc à la suite de la destruction de Saint-Nazaire, puisqu'ils n'avaient plus de maison, tout simplement. Donc, c'était très, très mélangé comme population, mais très modeste.
Et ici, à partir de 1870,
Jean-Claude Chemin,
des gens,
journaliste et auteur,
des gens qui habitaient sur le long de la Loire jusqu'à Angers, Saumur, qui étaient fortunés, bien sûr, ont vu que c'était agréable d'habiter au bord de la mer et goûter la mer pour ce qu'elle est.
En revanche, le coin était très très prisé. On voit des photos où on voit les belles dames de l'époque avec leur capeline et puis leur tenue très cintrée à la taille.
D'où ces villes-là qui ont deux constantes, c'est d'une part regarder la mer, bien sûr, et l'autre c'est avoir une certaine importance pour se situer socialement. Quoi. Donc on retrouve ces villes-là qui s'égrènent ici. Mais la particularité de Saint-Marc par rapport aux stations balnéaires environnantes, Saint-Marc est sur la commune de Saint-Nazaire, et la gare de Saint-Nazaire est quand même à environ 7 km d'ici. Ce qui a préservé d'une certaine façon le développement balnéaire. Ça fait une plage familiale, tranquille, où il n'y a pas. Enfin, qui brandit pas ses références. Le personnage de M. Hulot naît à Saint-Marc, sur cette plage. C'est là où il impressionne pour la première fois la pellicule.
Monsieur. Ah bon. Monsieur. Hein? Comment? Vous permettez?
Hugo.
H-U-L-O-T. Hulot.
On était tous sur la plage, nous. Moi, j'ai 11 ans. On a vu débarquer tous ces gens-là, là. Tout pâle, moustachu, zazou, avec des bagnoles un petit peu en dehors du temps. Et ils ont commencé à déployer des câbles sur la plage, des déflecteurs et puis des caméras et tout. Qu'est-ce que c'est que ça?
Il y a des camions qui arrivent, effectivement. Il y a un peu de bastingue sur la plage.
Puis petit à petit, on a vu le bourg qui commençait à changer devant, là. Tout le front de mer, là. Toutes les maisons ont été maquillées. Les décors sont arrivés sur les maisons. Et en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Ils se tournent un film. Ah oui, bon.
Mais après ça, l'équipe de tournage était relativement modeste.
Régis Tertrais.
Jacques Tati s'entourait d'une équipe technique en petit nombre. Et il ne gênait pas les vacanciers.
Et donc là, vous êtes à l'hôtel de la plage, sur la terrasse. Et vous êtes là où certaines séquences, notamment une séquence où on voit Régis s'accouder à la balustrade et voir M. Hulot traverser la plage. N'est-ce pas, mon cher?
Tout à fait, oui, tout à fait. Je suis le fils de M. Smuts, qui est l'homme d'affaires, et qui n'avait que faire de sa femme et de son fils, s'occuper plus de la bourse que de ses propres vacances, voilà.
Hein, donc il le suit, il va jouer au tennis avec lui, et donc il incarne le contraire de sa famille, en fait.
Oui, c'est ça.
Ben, on va au tennis
et... C'est... Hein? La façon, c'est une façon, je ne dis pas que ça soit la meilleure, mais enfin c'est la mienne.
En 4 jours, je savais où placer ma caméra. Il a trouvé son studio à ciel ouvert, ici. Quoi. Un studio qu'il a organisé en 4 plateaux. Hein.
C'est une façon de s'exprimer. Donc vous êtes dans l'obligation de faire voir une image, et dans cette image, de faire manœuvrer vos personnages.
Il y a la rue Charcot, qui est la rue par laquelle on arrive... C'est la parenthèse des vacances, la rue. Hein. On ouvre la parenthèse, le car amène les estivants, et puis la parenthèse se referme à la fin de l'été.
Alors il est certain qu'il faut le temps de regarder le décor pour pouvoir ces personnages manœuvrer dans ce décor. Il y manque une construction dramatique, mais est-ce que le cinéma a toujours eu besoin d'une construction dramatique? J'en suis pas sûr. C'est un ballet.
Donc la rue Charcot, la plage bien sûr, qui est la légitimité du séjour balnéaire. Et la corniche qui domine, et c'est là où il y a une partie du séjour balnéaire qui est la distraction, le sport. Et puis enfin, il y a l'hôtel, hein, où on séjourne, et où on séjourne dans l'entre-soi. Pour cette petite société là que M. Hulot va retrouver, et cette société qui est une société de moyenne petite bourgeoisie cosmopolite et qui en fait est en vacances mais qui ne change rien à son comportement ni à ses habitudes. Le drame de M. Hulot, c'est que lui, il est en vacances, et vacances, ça veut dire quelque chose, quoi. On se comporte autrement que le reste de l'année.
À droite, et le chemin longeait la propriété ici. Il y avait une partie qui était donc séparée, qui était en bordure de mer, sur laquelle se trouvait le tennis. Voilà.
On voit bien la trace du tennis. Là, on a les morceaux de
oui, ben les poteaux, c'est ça.
Et puis on a la couleur rouge de la terre ocre.
Oui. On a su que Jacques Tati cherchait un tennis. Alors, dans la propriété, il y avait un tennis. Et donc, il est venu voir avec mon oncle s'il pouvait utiliser le tennis pour tourner les films du tennis.
C'est devenu une scène culte.
Marquet, son directeur technique, est venu avec sa Jeep me chercher. Nous sommes partis à la boule pour m'habiller des pieds à la tête et des chaussures blanches, des sockets blanches, un short blanc, une chemise blanche et puis un pull bleu. Et on m'a ramené en me disant écoute, à partir de demain, tu viens sur la plage à 9h.
Il y a eu peu de comédiens professionnels sur ce film. Fortiori sur le précédent, sur les jours de fête, il y en avait très très peu. Et sur les vacances de M. Hulot, il a réuni des gens qui travaillaient sur jours de fête, en particulier les mousquetaires, c'est-à-dire Pierre Del, qui est devenu truquiste, qui était accessoiriste, Marquet, bien sûr, co-scénariste, Cotin, le costumier. Cotin, qu'il avait connu sur des plateaux de cinéma, et Cotin qui avait la même stature que lui, une taille très proche, ce qui lui servait de doublure. Quand le kayak se renferme sur M. Hulot, en fait c'est Cotin qui se mouille. Et ces gens-là se trouvaient derrière la caméra, mais se trouvaient devant, dans différents rôles. Hein. Pierre Del, par exemple, le truquiste, qui avait eu une dizaine de rôles dans le jour de fête, s'est retrouvé avec presque autant de rôles dans les vacances de M. Hulot. En fait, il choisissait les gens, non pas parce qu'ils étaient comédiens, il choisissait parce qu'il considérait que telle ou telle personne allait être l'incarnation du personnage qu'il veut mettre en scène.
Et alors, quand l'école a repris en cet été 51, vous avez pu avoir une dispense pour pouvoir continuer à tourner ?
Non, parce que, attention, mes parents étaient instituteurs. Moi, je rentrais en 6e à l'époque, si bien que moi, j'étais privé du feu d'artifice, parce que le feu d'artifice, il a eu lieu plusieurs soirs de suite. Et puis, on entendait péter les trucs, et puis ça avait lieu ici, juste à cet endroit-là, parce que c'était le potager du château, là, ce qu'on appelle le château, parce qu'il y a le tourniquet, là, sur lequel Hulot vient alimenter son petit seau pour éteindre le feu. Et ben non, nous, c'était terminé, hein, c'est... Non, les copains, eux, ils avaient le droit d'y aller. Mais ben, ça y est, c'est fini. Moi, je rentre à l'école. Je prends le car tous les matins pour aller au collège. Et puis, c'est fini, quoi. Les vacances, c'est terminé. Hein. Ça s'est envolé. Hein. Comme le faux phare qui était au bout de l'acheté, à la première tempête, il est parti. Ça s'est évanoui rapidement.
ぶらついて街のみんなに挨拶してゆくけれど金はさっぱりね空っぽらしいよいいおじさんおじさん大好き困った顔しないで何でも無理してくれるよワンコも友達だそうで屋根裏に住んでるけど窓には日がいっぱい何も気にせず街の人とみんな友達
Il fait partie de cette génération qui a inventé le cinéma, au fond, qui est allé directement d'une scène à l'autre. Dans les Nickelodeon, c'était la même chose. On faisait un numéro de musical et puis on le filmait. Donc c'était même presque les mêmes séquences. Il y avait des toutes petites bobines de quelques minutes. Et on sait très bien, il nous l'a assez raconté, ça. Et c'est la grande leçon. Un numéro de musical, c'est un objet de perfection. C'est une période parfaite, il n'y a pas une seconde de trop, une seconde pas assez, c'est des règles d'or en fait. Selon le corps qu'on a, selon la dimension du personnage, je veux dire l'envergure du personnage, eh bien, la chose doit durer un certain temps, prendre un certain espace sur une telle scène. Enfin, tout ça, c'est tout un savoir extrêmement précieux que lui avait et qu'il a transporté naturellement dans le cinéma, en fait.
Ça, je dois dire, je n'ai pas tout à fait l'habitude de parler, vous voyez dans les films. Alors, après Jour de fête avait pas mal marché, je me suis dit, je vais écouter les conseils des cracks, si l'on veut, du cinéma. Alors, j'ai téléphoné, on m'a téléphoné, et les scénaristes m'ont dit, votre film est mis en scène d'une façon charmante, c'est dommage que vous n'ayez pas un scénario pour le film. Alors, les metteurs en scène m'ont dit, votre histoire est tout à fait délicieuse. C'est dommage que vous n'ayez pas eu un bon metteur en scène. Et c'est vrai. Ensuite, j'ai rencontré quelques vedettes classées du cinéma qui m'ont dit la mise en scène, le scénario, tout ça, c'est vraiment adorable. C'est vraiment dommage que vous n'ayez pas eu de bons acteurs. Alors, en ayant fait l'addition de tout cela, je me suis dit, je vais recommencer.
Voilà, il a mis une caméra devant le music hall, et après, bien sûr, dans son génie, il a inventé le scénario, il a scénarisé cela. Il a inventé un mode de récit qui est toujours dans l'inachevé, la suspension aussi. Mais sans arrêt, la règle d'or du musical est présente. Il vient d'une très très grande tradition, en plus anglo-saxonne, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça, c'est comme un quatuor à cordes, enfin, ça ne se démode pas.
Tati a aussi eu une conviction très vite qui est de naître un peu tard. Quoi. Il naît après les grands burlesques américains et du coup, il essaye d'être contemporain de Laurel et Hardy, par exemple, qui sont ceux qui, parmi les burlesques américains, ont le mieux réussi la transition entre le muet et le parlant. Donc en commençant au tout début des années 30, il arrive après la transition du muet au parlant et du coup, il est dans cette espèce de course contre la montre pour essayer d'être en accord avec son temps, qui est d'inventer un burlesque parlant. Là aussi, comme tout est compliqué en réalité, le travail du son chez Tati se nourrit aussi d'expériences d'autres grands burlesques, dont Chaplin. Il y a vraiment des points de convergence possibles entre les temps modernes, les lumières de la ville et le cinéma de Tati. Des effets comiques chez Chaplin qui annoncent Tati, mais évidemment, il leur donne une ampleur, il leur donne un systématisme qui n'existait pas encore chez Chaplin.
Alors, patron, ça marche?
Et vous?
Putain, ça a pas l'air d'aller, lui, là-bas.
Eh ben, votre copain, il est un peu touché, là, vous savez.
Pourquoi?
Ben, les cinémas passaient un film sur les postiers américains, alors vous pensez, si.
Oh, capitaine, on voit un petit coup?
Oh, allez, allez. Oh. Le dire. Et c'est encore que des vieux films. Il faut voir les nouveaux.
Oh, mais il paraît que t'as à peine le temps de mettre ta lettre à la boîte que tu l'as déjà.
Oh, comment tu fais pour distribuer les lettres dans les gratte-ciel?
Ben, mon vieux, ils leur mettent une hélice dans le dos. Non, peut-être qu'il y a des gens qui veulent pas croire à Jules Verne. Regarde où ils en sont. Tiens, c'est comme les gars qui pensent qu'on peut pas entendre la mer là-dedans. Tenez. Non, l'autre côté. Ah, comme ça.
Venir d'ailleurs, savait bien en parler et il a bien su. Son cinéma est chargé de ça en fait. Pourquoi on est tombé là? D'où on vient? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Et on continue, coûte que coûte, le chemin comme ça, avec une certaine élégance, mais bon, on résout pas la question pour autant. Quand j'entendais Tati ou quand on parlait, j'entendais bien quelqu'un qui venait de là, d'un monde qui n'existait plus.
Monsieur Giffard, Düsseldorf au téléphone.
Comme étudiante, je travaillais pour Cinématographe, la revue de Jacques Fieschi, et il m'avait demandé d'aller l'interviewer. Donc je lui ai dit oui, je crois que j'ai une entrée, donc j'y vais. Puis tout de suite, il a ri, parce qu'avec nos noms, tout de suite, il m'a dit oui, je crois qu'on a dû se faire la guerre et tout ça, on a ri. Puis notre amour des chevaux, et voilà, on s'imaginait à cheval, et voilà, vos ancêtres et les miens ont dû se faire la guerre, et puis forcément, puis on s'inventait des trucs. Ça lui a plu, ça, qu'on soit un peu d'ailleurs, comme ça, et un peu décalé. Mais c'est toujours pareil, l'idée qu'on n'est pas exactement au bon endroit où on aurait dû être. On est tombé là, quoi. On est tombé là. Et là-dessus, bon, moi qui suis d'une famille, c'était plus proche que lui, c'était une génération avant que des Russes sont venus. Hein, c'était pas encore la Révolution russe. Nous, c'est par un craquage historique qu'on est arrivé. Mais voilà, nous c'était plus violent. Mais lui, il a une très belle histoire. Enfin, son père a une très belle histoire, puisque c'est un enfant qui est un enfant naturel, d'une vraie histoire d'amour entre une petite Française et un officier russe. Et puis après, la famille russe fait enlever l'enfant et la mère devient bonne dans la famille qui a enlevé l'enfant. Et retrouve son fils et le ramène à Paris. Donc il y a là aussi, comment vous dire, on sait très bien que ça c'est assez slave, cette rêverie sur le destin et sur un destin pas du tout ordinaire. Enfin voilà, il n'avait rien de bourgeois. Et il n'avait rien de bourgeois, il détestait les conventions bourgeoises, il détestait ça, qu'il fallait les protocoles et tout ça, il détestait. Je pense qu'il aimait beaucoup le destin. Le destin, bon, bah, ça n'a rien à voir avec le protocole bourgeois, c'est du romanesque.
Vous déranger, je vous avais en plein travaux.
Le jardin est à peine terminé.
En effet, je vois. Mais c'est que tout ça a pris du...
Oh. Vous voyez, ça commence à prendre tournure. Alors le hall, vous connaissiez.
Bravo, bravo.
Oh, c'est si pratique, tout communique. Oh, c'est sûrement Gérard.
Je vous en prie.
Oui, bonjour, l'équipe de France Culture pour Philippe Gigot.
On va passer par là-bas.
Bonjour.
Madame. Bonjour.
Oh, comme ça.
C'est du plastique. Des fleurs qui se gardent.
On est fait pour
le
caoutchouc.
Il y a le canapé tube vert de Madame Harpel. Et puis il y a le meuble haricot que Monsieur Hulot renverse pour dormir dedans. Et le rocking chair de Monsieur Harpel. Et bien entendu le poisson qui fait figure au proue de la fontaine. Que Madame Harpel actionne. Qu'est-ce que je vais ouvrir de merveilleux ?
Philippe Gigot, les films de mon oncle.
Je cherche un carnet de... Vous pouvez voir un petit peu des choses de la main de Tati. Carnet, il notait des idées de gags là, en deux lignes pour monter dans sa chambre différentes formes d'escalier. Là, on pense tout de suite à la maison de Monsieur Hulot dans Mon Oncle. Donc, on voit cette écriture qui est une jolie écriture. Hein, on comprend que Tati il se disait cancre à l'école et c'est vrai qu'il a un parcours scolaire. Pas exemplaire, on va dire, mais c'était forcément quelqu'un qui lisait d'une part et qui était très appliqué et qui devait vraisemblablement prendre le temps de bien faire les choses. Il y a aussi des correspondances qui sont assez intéressantes. Truffaut a écrit à Tati une formidable lettre de soutien au moment où Playtime sortait. Et connaissait à la fois une critique très très dure et puis un échec public. Playtime a mis beaucoup de temps à être considéré comme le chef-d'œuvre de Tati, comme un film majeur dans le cinéma français.
Il y a un moment, une espèce de tension. Il se met à détester Tati, qu'il trouve laborieux et auquel il préfère Louis Malle. Et donc il va d'ailleurs produire un texte critique sur Mon Oncle qui est décrit comme un film froid et concentrationnaire avant d'envoyer ce texte sublime qui pour moi est une des plus belles lettres de cinéaste à cinéaste sur Playtime juste après l'avoir découvert en décembre 67 et où il s'excuse des effets possibles de ce texte critique négatif sur le film Mon Oncle en lui disant à quel point il a été sidéré par la beauté de Playtime et son inventivité. En reprenant d'ailleurs une formule de son propre maître et père adoptif, André Bazin, en disant que c'est le premier film martien.
Arrivée en provenance de Francfort, porte numéro 47. Arrival from Francfort, Airbus Flight 864.
Venir d'ailleurs.
Puis après, même des éléments, beaucoup d'éléments sonores qui sont sur des bandes magnétiques. Donc, les éléments sonores, c'est assez riche. Hein. C'est à la fois des enregistrements purs de sons, de bruit. Ça peut être des kilomètres de bandes de sons de voitures, d'automobiles, de verres cassés, des choses comme ça. Et puis après, il y a les, en plus des sons d'ambiance, il y a les prises de son de voix qui ont servi au dialogue puisque tous les films de Tati étaient post-synchronisés. Il n'y a pratiquement pas de son direct dans les films de Jacques Tati. Il faut se rendre compte que Tati a beaucoup modifié le montage de ses films. Et qui dit modifier le montage, modifie aussi le montage son en plus du montage image. Il a beaucoup touché le rythme de ses films en répondant un petit peu à ses observations qu'il avait faire dans les salles de cinéma, puisque sur beaucoup de ses films, il a allé dans la salle, il se faufilait discrètement parmi les spectateurs, et puis il était attentif aux endroits où le public réagissait ou ne réagissait pas, et en fonction, il allait directement dans les pellicules en cabine.
Chez Tati, c'est le son qui parle. La parole est vraiment entièrement substituée par le son parce que les bruits que nous produisons nous racontent d'une façon beaucoup plus inconsciente, mais parfois beaucoup plus riche et beaucoup plus sincère que la parole que nous produisons. La tradition du burlesque, c'est le corps parle, donc du coup, il n'emploie pas le langage articulé ou très peu, ou pour s'en moquer, le tourner en dérision et montrer sa fatuité. Donc là, en l'occurrence, chez Tati, le film le plus exemplaire de ce point de vue, c'est sans doute Les Vacances de Monsieur Hulot, puisque on a des expressions comme le fameux « Oh, un coquillage !» qu'on ramasse, dont on s'extasie, puis ensuite qu'on rejette à la mer, quitte à retomber sur lui quelques instants plus tard, dans une espèce d'extase automatisée, quoi. Le verbe là est entièrement tautologique, donc il n'apporte strictement rien au réel, et c'est précisément ça que veut montrer Tati. C'est la pauvreté de cet échange-là par rapport à ce qu'on perçoit nous. Et ce qu'on perçoit nous à cet endroit-là, c'est la façon dont le sentiment s'est fané au sein de ce couple. Et donc du coup, le devenir du couple dans un des horizons que propose le film, qui est quelque chose de complètement routinier, répétitif et finalement presque mort. Le fameux message brouillé dans la gare, ça raconte vraiment ça. C'est une adresse aux spectateurs pour nous dire « N'attendez pas de message qui passe par le texte. » Ça n'est pas par ça que le cinéma fonctionne, mais la vie non plus. En réalité, dans la vie, voilà, on fait semblant par le verbe, parce que ça permet à certains de briller, notamment aux hommes politiques, à qui on voulait beaucoup d'avoir une maîtrise rhétorique. Mais pour lui, l'essentiel n'est pas là. Il est vraiment dans la conduite des uns et des autres, dans les arrangements corporels qu'on propose en société. Quoi.
Ah ben voilà. C'est exactement ce qu'il fallait pas. Attendez deux secondes. Oh, c'est pas vrai. Attends, je vous apporte. Oh, attendez. Allez, dehors, tout le monde. Excusez-moi, c'est vraiment exactement ce que j'espérais qu'il ne se passe pas. Bon, ma rencontre,
Marie-France Sigler-Latrope, réalisatrice.
J'avais tourné un film aux États-Unis et je suis ensuite venue en France. Et là, je voulais le retravailler. Donc, je ne savais pas à qui m'adresser. Et Tati était toujours très aimait beaucoup les jeunes et voulait toujours les aider. Alors, je rencontre Tati et dès qu'on s'est rencontrés, c'est comme si on se connaissait depuis toujours. On a commencé à parler de cinéma, de films. Il m'a demandé ce que je faisais, court-métrage. Et au moment de partir, il me dit, mais puisque vous êtes un peu américaine, est-ce que vous connaissez les Américains? Parce que je cherche à faire un groupe touristique pour mon film, qui s'appelait à l'époque Tati 4, qui n'était pas encore Playtime. Et j'ai eu le coup de culot, j'ai dit, j'en connais plein. À Paris, j'en connaissais pas beaucoup. Et puis j'ai fini par aller au PX de l'OTAN. Là, je vois concours de gâteaux et j'ai vu toute une tapée d'Américaines avec des chapeaux à fleurs, des lunettes à strass, enfin tout ce qu'il fallait. Donc j'en ai choisi une douzaine et j'ai appelé Monsieur Tati, tout en tremblant parce que je savais pas du tout ce qu'il voulait. Et en partant, enfin après ça, il me dit « Passez au bureau pour qu'on vous paye pour ce travail et je vous prends sur mon film ». Souvent, je referme la porte, excusez-moi.
C'est un qui occupe quand même pas mal de classeurs dans ce... dans cette armoire. On comprend que Playtime était un tournage un petit peu compliqué, puisqu'on voit déjà assurance, on voit prévision météo.
Un grand artiste comme ça est inconscient des difficultés, et c'est ça ce que je trouvais toujours formidable, c'est que la difficulté financière, tout ça, n'était pas, il ne tenait pas ça en compte.
Le tournage a duré très longtemps.
Ça a pris des proportions quand même importantes.
La production en tout, c'est 3 ans.
C'était vraiment un très grand projet. Il y a eu des retards incroyables pour le décor.
Le plateau, qui est une ville complètement construite par Tati, a essuyé 2 tempêtes qui ont mis à plat le décor. On peut voir aussi qu'il y a des locations et prêts de véhicules. On voit Simca, effectivement. Il y a beaucoup de voitures Simca. Même une sorte de défilé de voitures Simca. Voilà, donc ces classeurs nous permettent aussi d'élucider quelques mystères liés aux productions des films de Tati. Mystères qui persistent encore aujourd'hui, quelquefois.
Pendant le tournage, en plein tournage, je crois que c'est les établissements Chauveau qui louaient la caméra, qui était une caméra pour du 70 mm. Et Monsieur Chauveau est venu sur le plateau alors que nous tournions en plein tournage et il a décroché l'objectif et il est reparti avec. Il avait tellement de difficultés et puis il fallait vraiment faire extrêmement attention à cause de ces problèmes d'argent. Et de persévérer à ce point-là, de ne pas lâcher prise, de continuer à penser à son... Il imaginait, il voyait son film et il s'est accroché. J'ai beaucoup appris de lui, bien sûr.
Quand le film est sorti et que ça a été, on peut dire, un échec commercial, est-ce qu'on peut dire ça? Comment lui a vécu cet échec-là?
Ça a été terrible pour lui. Il le montrait pas du tout, d'ailleurs. Mais il est tombé malade par la suite, assez rapidement. Et il s'est bagarré contre la maladie pendant 10 ans, enfin plus. Après, il a espéré que les Américains acceptent le film plus que les Français. Mais ça n'a pas eu le succès qu'il espérait non plus. Donc, bien sûr qu'il était extrêmement touché par ça. Et il y avait... Il avait des lettres d'adolescents, d'écoliers, qui avaient écrit avec vraiment des éloges de Playtime. Et il ressortit toujours ces lettres.
Oh, mon chéri, en tout cas, tu étais vite à venir.
Ouais, ouais.
Regarde, un officier.
Un officier ?
Ça va ?
Oui.
Ce qui le mordait vraiment très fort, c'était que Playtime avait été abîmé. Et ça, il supportait pas. On avait coupé là-dedans, on avait fait un objet qui ne ressemblait plus du tout à son rêve, qui était si exigeant. Vous savez, il était à la seconde près. Il était maniaque, donc... Ça, c'était une souffrance. Ça, il supportait pas. Et donc, chaque fois qu'on le voyait, il ressortait ses grands livres de Playtime. Il nous racontait. Il nous racontait l'absolue création de chaque chose, chaque mur, chaque lampadaire. Pour nous faire entendre que rien n'était laissé au hasard, que le récit était partout, que le cinéma était aussi dans l'épingle qu'on pose sur la table. Je crois que nous, on n'en avait pas conscience, mais probablement que c'est ce qui s'est imprimé chez nous, Jérôme et moi, où on lui devait tant comme maître absolu et de la scène, et qu'il a fallu rendre compte de ça, enlever cette injustice qui lui avait été faite comme artiste et restituer Playtime au plus près, avec Sophie Tatichev bien sûr, au plus près de ce qu'il avait rêvé et ce qu'il avait fabriqué comme cinéma. Mais je pense que c'était sa grande pudeur de nous raconter son exigence pour nous dire sa souffrance aussi.
Ce matin-là, je ne sais pourquoi, Madame Lavigne vint mon amie. Je l'attendais, je l'espérais, toute cette joie qui m'arrivait.
Amusez-vous, mes filles. C'est bien gai d'avoir des robes de toutes les couleurs. Moi, j'ai toujours été en noir. Et si pas encore aujourd'hui, vous me verrez en rose.
Cette maison, le numéro 14, dans le film, c'était la fausse charcuterie. Là où le facteur, Jacques Tati, à un moment donné, croyant viser le jeu de Chamboultou, on lui fait faire un mouvement inattendu et hop, il dégage un empilement de boîtes de conserve.
Monique Joguet, fondatrice de Tati en fait.
À côté, vous avez, après la porte, que l'on voit aussi dans le film, hein, elle sert souvent de passage d'une mère, enfin bon. Et à côté, c'est le fameux café Bondu. À la fenêtre du haut apparaît Jacques Tati. Il est rentré avec son vélo et que donc le quartier jette le vélo par terre. Les chambres. À côté, c'était un petit magasin, le portail, et on voit dans le film une dame qui sort pour se tenir au courant, une commère hein, de plus, se tenir au courant de ce qui se passe, et elle vide un pot dans le caniveau, peut-être ça se faisait à l'époque. Et encore à côté, vous avez le coiffeur. On se fait couper la mèche. Voilà, donc ça, tout ça, c'était vraiment des maisons d'habitation que les gens avaient très gentiment ouvertes pour le tournage. Et puis sur la place, alors là derrière, la roulotte et le manège étaient là. Mais le manège, donc il avait été loué par Jacques Tatia, il ne le possédait pas, il arrivait avec trois fois rien, hein. Presque pas de matériel. Et ben la halle, on la voit aussi, mais comme il disait, ce qui m'intéresse, c'est pas les monuments historiques. Du tout. C'est le fait que c'était un lieu fermé. Donc assez vrai, assez clos. Et pour lui, c'était un lieu de tournage qu'il avait repéré.
Bon, c'est-à-dire que j'avais été requis par les Allemands en 43. Et puis je m'étais évadé. Et j'ai été me réfugier au Marambert, qui est à 6 km de Sainte-Sévère, où j'ai tourné Jour de fête. Et puis là, j'étais surpris parce qu'il y avait la guerre, mais on avait l'impression que, à l'intérieur même de Sainte-Sévère, on ne s'en apercevait pas du tout. Et par suite de ce contact que j'ai eu avec les habitants, c'est quand même formidable de voir des gens qui savent vivre. Et un jour, si je fais un film, je viendrai le tourner là. Et c'est pourquoi, quand j'ai eu la possibilité de réaliser Jour de fête, je me suis repenché sur ce problème simple qu'avaient ces gens pour faire un film simple.
Salut Jean.
Monsieur Dame, bonjour.
Alors,
Bonjour monsieur. Bonjour, bonjour monsieur. Bonjour, bonjour madame.
Bonjour monsieur Renaud. Merci, hein. Vous êtes toujours fidèle.
Ah oui. Je suis bien exprès, hein.
Oui, je m'en doute.
Et je repars tout de suite. Maurisson, un petit peu plus loin que Maurisson.
J'ai vu Joël.
Eh ben, ouais, on fait
j'ai demandé l'anniversaire de Violette, c'est le 14.
Bon, alors.
Et vous aviez quel rôle dans le film? Qu'est-ce que
vraiment, je
que
suis vous le petit garçon qui court derrière les chevaux de bois.
Ça vous a amusé de faire ce tournage?
Bah oui. Mon travail, c'était de descendre là, ce petit monticule en courant pour aller rejoindre la route où les chevaux de bois passaient.
Jean Renaud.
Je m'en souviens bien.
C'est devenu une scène emblématique.
Mmh. Ah oui, puis je m'en souviens doublement parce que je tombais dans les orties et il fallait recommencer alors, à chaque fois. Mais souvent, hein, ça piquait. Des souvenirs. Puis il était très pointilleux, mais il savait bien prendre les gens quand même. Il était très, très pointilleux. Mais même quand il était, qu'il s'était réfugié là, au Marembert, là, à Vigeon, une commune à côté, il allait chez les paysans, il allait faire les foins, il allait faire ramasser les patates, il l'a dit souvent. Mais il notait. Tout, sitôt qu'il voyait une mimique de quelqu'un, il notait. Mais j'ai eu l'occasion de le contacter très souvent après, hein, jusqu'à l'âge de 20 ans, même plus. Je me souviens une fois, il sortait de chez M. Bourri, le pâtissier, et il m'a dit, ah, attends, je vais te demander quelque chose. Je t'ai porté assez souvent dans mes bras, il faudrait que tu me fasses une photo que c'est toi qui me tiens dans mes bras. Moi, je pesais à l'époque peut-être 65 kilos. Tati mesurait 1m81 ou 82. Et puis ça ne s'est jamais réalisé, ma foi. C'est tous les gens qui ont figuré dans le film, on n'est plus que Jean-Claude et moi.
Et du coup, vous êtes resté copain alors.
Oui.
Vous l'avez vu la première fois il y a longtemps.
Oh bah, on allait à l'école ensemble. C'est-à-dire, bon, toi, t'es parti à quel âge?
Moi, je suis allé avec M. Durand. Durand.
Ah non, j'ai pas été.
Ah ouais.
Oui, oui.
Je suis allé avec.
Alors, Jean-Claude Laruelle, vous avez aussi figuré dans le film Jour de fête.
C'est-à-dire, moi, j'avais 5 ans. Moi, je venais au manège. Et j'arrivais, et je comptais mes sous, et je faisais des tours de manège. Les scènes, il les a fait refaire plusieurs fois. Mais à ce moment-là, ça faisait très chaud. Peut-être juin, juillet, au mois de juillet.
Et vous avez le souvenir que les habitants étaient enthousiastes par ce tournage?
Ah oui, tout le monde était très content, et puis c'était après la guerre, donc c'était important, hein, de... pour tout le monde, quoi, et puis ça donnait de la gaieté.
Alors, on se prépare, c'est la fête.
There's no one within miles of you. It's lovely sitting next to you.
Oh, ce soir, sur la plage, grande séance de cinéma. L'amour avec la belle Gloria Parton, Maurice, avec le célèbre et audacieux Chuck Parker, le cheval Dixie, l'aventure et des galopades dramatiques avec le cavalier du Far West.
Le 18 juin 49, il est venu présenter son film à Saint-Sever. Il était sorti à Paris difficilement, puisqu'on sait très bien qu'entre 47 dates du tournage et 49 sa sortie, il y a eu le montage, certes, l'enregistrement des scènes en studio, puis tout le son en post-synchronisation, mais le film a peiné à sortir. Il était trop différent, on n'en voulait pas dans les salles. Et il l'a proposé en plus d'une séance commerciale,
Là, il a eu un succès public et ensuite un succès auprès des professionnels.
Le plus important, c'était en 1949, c'est quand le film a été projeté sur le mur. Là, donc tout le monde était heureux de se revoir.
Il y avait du monde. Moi, j'étais chez une tante qui habitait au-dessus, là. On était à la fenêtre, on était bien, hein, on regardait à hauteur, on regardait ce film sur la place.
Or, cette projection, elle devait se faire, des gens assis, avec les chaises qui auraient été prêtées par le curé, les chaises de l'église. Et le curé, Clavier, il s'appelait l'abbé Clavier, a été très vexé de ne pas être dans le film alors qu'il avait prêté ses enfants de cœur. Donc, il a fait des tours de manège et il ne se voit pas dans le film. Et bien, il a dit, puisque c'est ça, vous n'aurez pas mes chaises. Et d'après ce que j'ai lu, il paraît qu'il y avait jusqu'à 3000 personnes ce jour-là. C'est incroyable pour un village, à l'époque, peut-être pas loin de 1000 habitants. Et donc, les gens ont plus ou moins regardé le film debout.
C'était un vrai jour de fête, pour le coup.
Ah oui, oui, oui. Ah oui. C'était une grande fête, hein. La projection du film...
Elle... Incroyable, parce qu'effectivement, c'était pratiquement un arc de triomphe qui avait été bâti pour Tati. Alors, un ruban à couper pour la route sur laquelle il entrait. Il a repris son costume de facteur, c'est les photos d'époque qui nous le montrent. Il a refait les tours de manège.
J'ai fait des tours de jeep, j'ai fait des tours de moto. Hein. Et les tartines de confiture.
Quelle tartine de confiture?
Pardon? Quelle tartine de confiture? Bah oui, qui nous récompensait sans doute. On n'a eu que ça comme salaire de toute façon. Aller sur la route et courir derrière les combats.
C'est l'arrivée des forains.
Voilà.
C'est quasiment une pièce de théâtre qui s'ouvre par l'arrivée et qui se ferme par le départ des forains.
Petite fille, on m'emmenait à l'Armée du Salut. À l'Armée du Salut, ma grand-mère jouait du piano et donc elle m'asseyait parmi un auditoire très étonnant que j'ai aimé tout de suite d'entrée. Mais c'était des gens très très hétéroclites et puis il y avait toutes sortes de gens. Hein. Il y avait des gens qui étaient complètement à côté de la plaque. Enfin, je veux dire, des bourgeoises abandonnées, des clochards qui se mettaient à chanter, des étrangers qui comprenaient rien mais qui étaient là pour pouvoir manger un petit bout après, des gens un peu perdus. Enfin, ce côté hétéroclite du monde, cette façon dont le corps est là, qui raconte plein de choses, le fait qu'on est inadapté, qu'on s'assoit sur un banc, mais qu'on se demande si on n'est pas définitivement dans sa vie comme dans une salle d'attente, ça Tati l'avait compris. Voilà, je crois que c'est aussi une forme... C'est des êtres qui se sentent exilés toute leur vie. Et du coup, il s'est servi de son corps comme musical, c'est-à-dire ce garçon... voilà, athlétique, mais trop grand. On a dû lui dire, non, pour le théâtre, vous êtes beaucoup trop grand, monsieur. Voilà, tous les sièges étaient trop petits pour lui. Donc, en plus, il en rajoute, il est digigrade, il se met sur la pointe des pieds, il bascule en avant. Il a un côté inadapté, mais au fond, est-ce que c'est pas le monde qui est inadapté à lui? Et il est tout le temps dans ce questionnement-là. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Moi, je suis trop grand.
Eh bien, n'est-ce pas? C'est très simple. Vous commencez à 8h jusqu'à midi. Vous avez 1 heure pour le repas. Vous reprenez à 1h jusqu'à 6h. Et bien entendu, vous avez vos dimanches. Eh bien, monsieur, on vous écrira. Pour l'instant, nous n'avons pas besoin d'acrobates.
Alors là, il y a les différentes paires de chaussettes rayées jaunes. Rayé rouge. Voilà. Vous voyez que c'est là avec. C'est préservé avec beaucoup de soin et en même temps quelque chose de rudimentaire. Du papier de soie, une panière. C'est très simple en fait. Il faut que ça soit aéré, les costumes. De temps en temps, voilà, ils sont là, mais.
trop court. Alors on voit les chaussettes. On voit les chaussettes dans Jaune de trafic. On voit les chaussettes dans Parade. On voit les...
Mais c'est parce que dans sa vie, c'était trop court de toute façon. Oui, il est tellement grand que je pense que quand en France, quand on est très grand, on a les pantalons trop courts, ce qui donne une, chez les hommes une émotion terrible, hein, tout de suite d'entrée. Voilà l'émotion absolue. Alors, évidemment, les mythes ont un tout petit peu joué, mais ça, c'était avant qu'on nous les vraiment qu'on que ce soit ici au 7 bis, parce qu'ici, on y fait très attention. J'aime beaucoup les costumes parce que c'est le costume, c'est un discours avec l'acteur. C'est vraiment lui dire des choses sans les mots. C'est formidable. Et la Tati, c'est extrêmement éloquent. Au fond, c'est un par-dessus qu'il devait avoir chez lui, un truc d'un homme de sa génération. Voilà, j'aime bien. J'ai l'impression Voilà, c'est plus qu'une relique. J'ai l'impression qu'il est là, quoi.
Ici, Radiodiffusion Télévision Française, programme parisien. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Notre prochaine émission aura lieu demain à 6h30.
Avec Jean-Claude Chemin, Philippe Gigot, Stéphane Goudet, Monique Joguet, Pierre Joubert, Jean-Claude Laruelle, Macha Makeyev, Jean Renaud, Marie-France Sigler-Latrope et Régis Tertrais. Documentation Béatrice James et Anne-Lise Signoret. Archivina Christelle Rousseau. Coordination Christine Bernard avec la collaboration de Pascaline Bonnet. Prise de son, mixage Pascal Baudin, Yann Frécy, Éric Gérard et Emmanuel Morse-Duncan. Merci au film de mon oncle, Jérôme Deschamps et Macha Makeyev, avec Philippe Gigot et Elisa Romani, Annie Alély et Arnaud Métivier de la Maison Jour de Fête, François Daugeron et la mairie de Sainte-Sévère-sur-Indre, Amélie Desperrier-Boucdira des Cahiers du Cinéma, Cécile et Sylvain et Lyon, le relais du facteur, Marie-Dominique Privé de France Bleu Périgord et Yves Rio de l'association Culture Loisirs de Saint-Marc-sur-Mer. Jacques Tati, Drôle de Bobine, un documentaire d'Angélique Thibault et Julien Rosa.